je vais parler d'un. En fait, pour vous dire la vérité, j'avais un thème en tête depuis un petit bout de temps. Et en étudiant mon thème, j'avais plein de versets. En fait, le thème, c'était la consolation. Vous voyez, c'était. Je ne sais pas pourquoi, je ne me sentais pas forcément dans. Très souvent, mes choix d'études de thèmes bibliques sont très souvent liés à des choses que je vis ou que je traverse. Là, c'est pas du tout que j'avais forcément un ressenti, un besoin de réconfort, mais Dieu, le Seigneur est aussi un réconfort et quelquefois juste d'étudier. Je sais pas si ça vous arrive, mais pour moi, en tout cas, c'est le cas. Parfois, juste d'étudier tous les versets qui parlent, par exemple, de l'amour de Dieu ou tous les versets où il nous montre que Dieu est un consolateur. Je sais que ça fait quelque chose dans mon cœur. Donc, j'étais partie pour vous parler. En long, en large, en travers, avec des mots grecs et des mots hébreux sur le thème de la consolation et Dieu qui est un consolateur. Mais en fait, ça m'a emmené complètement, ça m'a emmené sur un passage hier soir. Et donc, pour vous dire, c'est assez frais. Et hier soir, je suis tombée sur un passage qui n'a pas tout à fait attrait à la consolation. Mais le Seigneur m'a vraiment beaucoup touchée. Et donc pour celles qui sont un petit peu familières avec les études bibliques qu'on organise, il y a quelques j'allais dire années, mais quelques temps, j'avais fait un partage sur Marthe et Marie. Et c'est toujours de, en fait, c'est drôle parce que ce sont deux femmes donc dans le Nouveau Testament et on ne parle jamais que d'une seule. On parle de Marthe et de Marie. On va parler quelquefois de Marie toute seule parce que c'est elle qui a oint les pieds de Jésus, qui l'a oint d'un parfum de grand prix. Mais quand on parle de Marthe, on dit Marthe et Marie. Et on peut, en tout cas moi c'est mon cas, en fait c'est drôle parce que c'est juste une aparté, hein, c'est pas du tout le cœur du message, mais je me dis combien, une première remarque c'est, combien on est rapide à faire des comparaisons. Vous savez, on peut très vite, on peut être familier avec l'histoire de Marthe. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Marthe est l'activiste un petit peu. C'est la femme qui est dans l'action absolument. Elle est maîtresse de maison, elle reçoit le Seigneur Jésus et elle s'active, elle est au fourneau, elle est au service. Et Marie est au pied de Jésus. Et ça déplaît à Marthe qui demande à Jésus un peu de prendre la défense de Marthe. Et Jésus répond, bah non, Marie a choisi la bonne part. Et quelque part dans ma tête, je pense que je suis longtemps restée avec cette image de Marthe comme étant la femme pas spirituelle, la femme qui ne sait pas gérer ses priorités, la femme qui est trop dans l'action et tout, tandis que Marie, c'est vraiment le modèle de la femme douce, de la femme spirituelle, qui, elle, sait gérer ses priorités. Effectivement, il y a plein de trucs à faire, mais elle s'arrête, elle s'assied, elle reçoit du Seigneur. Et je sais pas pourquoi je me dis, j'ai envie de réhabiliter Marthe. Et en fait, sans vouloir, en fait, c'est en lisant un certain passage où quelque part, le Seigneur m'a montré en fait son cœur et la foi extraordinaire de cette femme. Et en lisant ce passage, je vous le dis tout de suite, si vous voulez commencer par regarder, on va regarder dans le chapitre de l'évangile de Jean, au chapitre 11. Et donc, en lisant ce passage, je vais juste faire un commentaire en fait de passage et tirer deux, trois petites choses qui m'ont parlé personnellement, parce que je m'identifie peut-être parfois beaucoup plus à une Marthe qu'à une Marie. Et quelque part, Marie, elle est sur ce piédestal de la contemplative pieuse et en adoration. Et moi, j'aime beaucoup faire les choses. J'aime être dans l'action. J'aime que ça bouge. J'aime rendre les choses possibles, tangibles, participantes pour le Seigneur, etc. Et donc là, on arrive en Jean 11, et pour vous donner un petit peu de contexte, c'est un des moments les plus tragiques de la vie de Marthe et de Marie, en fait. Marthe et Marie habitent à Béthanie avec leur frère qui s'appelle Lazare, et Lazare est malade. Donc je vais commencer à lire. Donc en Jean 11, il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds de Jésus et qui les essuya avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. À cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Or Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, retournons en Judée. Bon, je vais prendre une pause là déjà. Donc, comme je viens de vous l'expliquer, on arrive à un moment assez critique, un épisode critique et tragique de la vie de ces deux sœurs et enfin de cette fratrie. Et ce qui est important de savoir, c'est que premièrement, Jésus aimait cette famille. Il les connaissait. Lazare, Marthe et Marie faisaient partie, c'était des disciples de Jésus, mais c'était vraiment des amis. C'était un endroit, Jésus, on le lit dans les évangiles, aimait aller à Béthanie. On sait qu'il n'avait pas d'endroit où il restait, mais quand il était proche de Jérusalem, parce que Béthanie se situait à environ une quinzaine de kilomètres de Jérusalem, c'est là où il aimait aller. C'est là où il savait qu'il était reçu et accueilli. Et il nous est dit un peu plus haut dans le passage que quand les sœurs voient que Lazare est très malade, elles envoient un message à Jésus en disant celui que tu aimes. En fait, Jésus, ton ami bien-aimé, est malade. Et il était proche. Et de leur côté, bah oui, on sait que étant proche de Jésus, ce qu'on peut dire de Marthe, de Lazare et de Marie, c'est que c'était, oui, comme je l'ai dit, des disciples, à savoir qu'ils connaissaient le Seigneur, ils connaissaient son cœur, ils l'entendaient, ils avaient écouté son enseignement. On sait que Jésus enseignait avec autorité, il parlait de la part de Dieu, évidemment, en tant que fils de Dieu. Et certainement, ils ont sinon été les témoins, en tout cas, ils ont entendu tous les miracles que Jésus faisait. Et ce qu'on peut, on sait donc que c'était une famille de croyants. Et là, en fait, c'est un petit parallèle, c'est un parallèle avec nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. De même, on est proche de Jésus. Jésus est proche de nous. Il nous aime. Il a un intérêt pour nous. Ce qu'on vit ne lui est pas indifférent. Il n'est pas ignorant des détails, il n'est pas ignorant des détresses, il n'est pas ignorant de la souffrance, il n'est pas ignorant de la maladie. Et en même temps, bah, ce message que fait partir Marthe et Marie, toutes les deux, auprès de Jésus, c'est exactement, ça me faisait vraiment penser à la prière, en fait. Nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans la détresse et le premier recours. Premier peut-être réflexe qu'on va avoir, bah, c'est de se dire je vais m'adresser à la bonne personne. Et c'est exactement ce que Marthe et Marie ont fait. C'est que tout de suite, elles ont pas transigé, elles ont fait ce qui devait être fait et elles ont appelé l'ultime, ce que j'ai envie de dire, l'ultime recours à la rescousse, c'est-à-dire le Seigneur tout-puissant qui est capable de guérir leur frère, qui est capable d'arriver. Et pour moi, c'est déjà un parallèle avec notre privilège en tant qu'amis de Dieu, en tant que croyants, en tant qu'enfants du Seigneur. On a ce privilège de savoir que lorsqu'on prie à Dieu, il est là, il est présent. On ne le ressent pas, mais il est présent. Il tend l'oreille, il écoute et il va agir. Ensuite, je vais un peu développer sur la façon dont Dieu agit et le timing de Dieu qui peut être différent de ce qu'on peut en attendre. Et donc, pour info, juste, c'est aussi intéressant, je l'ai lu en étudiant, en fait, c'est important de remarquer qu'en réalité, Jésus se trouvait à au moins 10 heures de marche de Béthanie, en fait. Donc, il a fallu que Lazare soit malade, qu'elles envoient des messagers, donc ça fait une journée, que Jésus reçoive, que Jésus reçoive la nouvelle et qu'ils viennent. Donc en tout ça, il y a en disant, en étant au maximum de la réactivité peut-être qu'on pourrait attendre de la part du Seigneur, en gros, il y avait au moins 48 heures de décalage entre l'envoi de la nouvelle et l'éventuelle venue de Jésus pour être atteinte pour sauver Lazare. Et en fait, ce qui est important de noter et qui peut parfois nous surprendre, c'est que Jésus, alors qu'il nous est dit, Jésus aime Marthe, il aime sa sœur, donc il aime Marthe, Marie et Lazare. Et au verset 6, quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, retournons en Judée. Et ça, c'est vraiment, ça peut être quelque chose de troublant et que l'on vit aussi, qu'on expérimente. On expose nos besoins à Dieu. Dieu nous aime, il est ému de compassion envers nous, il est un Dieu d'amour, de bonté. Il répond aux prières, il voit les besoins. Et pourtant là, alors que son ami bien-aimé était malade, alors qu'on fait appel à lui, alors qu'il aurait toutes les raisons finalement de se précipiter, Jésus attend encore 2 jours. Ça, humainement, je crois que c'est quelque chose quand on est dans un cycle d'attente envers Dieu. Je pense que c'est un moment où peut-être on est mis à l'épreuve. Parce qu'on a fait tout ce qu'il fallait quelque part. On est enfant de Dieu, on ne remet pas en compte qu'il est tout-puissant, qu'il peut tout faire, on ne remet pas en cause qu'il est capable de le faire, et sauf que le secours semble tarder. Et ça me fait penser à pas mal de psaumes où on voit mon Dieu, dans les psaumes, très souvent on entend David ou les croyants s'exclamer, mon Dieu, ne tarde pas, jusqu'à quand tarderas-tu? Quand me consoleras-tu? J'ai toute une liste assez exhaustive de psaumes que je pourrais, enfin, je vous les cite comme ça, mais croyez-moi, dans tout le livre des psaumes, on voit assez souvent cette plainte, ce cri du cœur du croyant qui dit à Dieu, Dieu, ne tarde pas. Et je me dis, quand je suis dans cette position-là, que j'ai tout remis à Dieu et qu'il y a comme un délai, en fait, comme si Dieu était en retard, pas à l'heure, voire absent, parce que ça peut durer longtemps, les délais de Dieu. Là, ça a duré tellement de temps que c'était vraiment trop tard, on va dire, humainement. Qu'est-ce que ça. En fait, c'est un moment critique. Parce que c'est un moment où notre cœur va être révélé. Je ne sais pas vous, mais pour moi, souvent, dans ces moments-là, je vois ce qui se passe. Je vois ce que, entre guillemets, je demande ou j'exige de Dieu. Ça révèle quand je pense que la situation n'est pas juste ou que ça ne devrait pas se passer comme ça. En tout cas, ça fait un peu remonter des choses. Mais l'histoire n'est pas arrivée, ne s'est pas arrêtée. Mais moi, j'ai beaucoup, pour revenir à Marthe et spécifiquement Marthe, j'ai beaucoup aimé de lire Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Et c'est pas par hasard, en fait. Il n'aimait pas que Marie avec son attitude très spirituelle. On sait que Marie était spirituelle, je ne veux pas revenir dessus, mais il aimait Marthe et il aimait Lazare aussi. Et il aimait Marthe et son activisme peut-être, ses qualités, sa façon d'être. Donc on va continuer un petit peu la lecture. Donc à partir du verset 14, je reprends au verset 14 parce que donc Jésus décide de rester et puis il dit à ses disciples de retourner en Judée, etc. Donc là je mets de côté, entre parenthèses, la conversation que Jésus a avec ses disciples, non pas que c'est pas intéressant, mais je veux pas rentrer trop profondément là-dedans parce qu'il faudrait que je vous explique tout ce qui s'est passé avant et pourquoi les disciples disent ce qu'ils disent et que c'est pas absolument l'objet de l'étude. Et donc, on reprend au verset 14. où Jésus, en fait, il annonce à ses disciples que Lazare dort, et en fait, quand il parle de dormir, il parle qu'il est mort. Donc là, il le dit ouvertement. Jésus dit alors aux disciples, Lazare est mort, et à cause de vous, et afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Et là encore, pour moi, c'est quelque chose de fort de voir la différence entre la pensée de Dieu et ma pensée humaine. C'est-à-dire que Jésus, là, il dit, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, parce qu'il sait lui sait déjà ce qui va se passer. Il sait ce qui arrive. Il sait qu'il va ressusciter Lazare. Mais là, les disciples, Marthe, Marie, n'en ont aucun, Lazare non plus. Personne n'en a la moindre idée. Et je me dis, c'est fou parce que parfois, quand le Seigneur nous parle au sein de l'épreuve, on ne comprend pas, on ne capte pas. On ne capte pas. Je suis en plein tourment et Jésus me dit, réjouis-toi. Non, ça n'a pas de sens. On peut lire dans la Bible parfois de rendre grâce en toute chose, comme on le lit dans Romains. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, tout, absolument tout, les épreuves, les tribulations, la famine, les persécutions. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui cadre pas avec notre pensée humaine. Et c'est dur, en fait, c'est dur pour nous parce qu'on a notre pensée qui est comme ça, on est des êtres humains, on n'a pas l'amplitude de Jésus, on n'est pas omniscient, on n'est pas omniprésent, on est tellement contraint dans notre corps, dans notre physique, on est tellement contraint par nos circonstances, assailli par nos pensées. Parfois, on a des émotions qui sont ingérables. Parfois, on est quelque chose comme un deuil, une détresse et une souffrance physique ou une souffrance morale. Ça peut tellement nous dépasser, nous engloutir. Et Jésus l'a dit, ben, Lazare est mort et je m'en réjouis parce que cette mort, elle est pour la gloire de Dieu. Ok, donc il faut continuer, il faut continuer à avancer avec Christ, il faut continuer à le suivre là-dedans pour voir ce qui va se passer. Parce que si on est un croyant et qu'on s'arrête là et qu'on dit, ok, alors là, ce que Jésus me dit, c'est bon, j'arrête. J'y arrive plus, je vais pas arriver. C'est difficile à comprendre, ça n'a aucun sens. Si les disciples n'avaient pas continué, ils n'auraient pas vu justement la gloire de Dieu. Ils n'auraient pas été ces témoins-là. Et c'est vraiment, encore une fois, pour moi, c'est vraiment un parallèle avec nos vies. C'est quand ça n'a plus de sens. Vraiment, il nous reste cette espérance et cette confiance dans la personne de Dieu. Pas dans ce qu'il va faire, mais Dieu est là. Dieu est là, je peux m'appuyer. Il me dit quelque chose, il me dit de réjouir, il me demande de pardonner alors que j'ai pas envie de pardonner. Il me demande d'accepter sa consolation alors il me semble que je suis inconsolable. Ok, je continue. Je vais continuer à développer. Donc Jésus part à Béthanie. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, il a dû marcher au moins une journée avant d'arriver. Et au verset 20, on voit que lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Et Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et en fait, en dépit de ce qu'on pourrait croire, on pourrait interpréter la phrase de « si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort » comme un reproche. Et en fait, je crois pas que ce soit le cas parce que si on remonte, si on fait un rétroplanning, si on remonte un peu le temps, très certainement que Lazare est mort très rapidement après l'envoi de son message. Et ça, Marthe, ça, elle le savait. Et elle savait certainement où se trouvait Jésus, sinon elle n'aurait pas envoyé un messager auprès de lui. Donc, je pense pas que ce soit un reproche. C'est simplement, elle exprime un regret en disant, bah, si tu avais été là, c'est sûr que tu pouvais le sauver, en fait. C'est plutôt comme ça. Quel dommage que tu n'aies pas été là présentement parce que c'est sûr que tu aurais sauvé mon frère. Et elle le confesse en fait, elle exprime sa foi en Jésus en fait, elle exprime sa foi en Jésus et ce qui est beau c'est que Elle dit ça et elle ajoute tout de suite après, et c'est pour ça que je crois qu'il ne s'agit pas d'un reproche, c'est mais je sais, malgré tout, et même si ça fait 3 jours que mon frère est enterré, mais je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et là, on voit la réponse de Jésus qui lui dit, ton frère ressuscitera. Et là, c'est un appel à toutes les sœurs en Christ que vous êtes et qui connaissez vos Bibles et qui êtes fondées dans les Écritures. On pourrait toutes. C'est un peu la réponse. C'est une réponse qui est vraie, hein, qui est authentique, mais c'est la réponse attendue. C'est, je sais, lui dit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. On voit là son niveau d'enseignement. Marthe savait. Marthe avait une espérance en la vie éternelle. Elle savait que son frère, elle savait qu'elle n'allait pas perdre son frère pour toujours. Et encore une fois, c'est un parallèle pour nous tous. Nous savons que nous allons tous passer par la mort, et nous savons toutes aussi que nous allons ressusciter. Ensuite, quand nous sommes dans un moment de nos vies où on perd un frère, une sœur en Christ, on sait qu'on le reverra. En même temps, on est quand même sous le coup de cette douleur et on a cette confession de foi. Je sais que mon Rédempteur vit, je sais que je verrai Jésus face à face, je sais que un jour je reverrai des gens bien-aimés qui sont maintenant auprès du Seigneur, je sais que je les reverrai. Et donc le dialogue continue et Jésus lui dit, mais parce qu'elle dit, je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. Et Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection, la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Et là, c'est vraiment l'essentiel, en fait, de ce partage biblique. C'est la question que Jésus pose à Marie, c'est crois-tu cela? Et elle répond, excusez-moi, ça me touche beaucoup, mais elle répond, oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Et en fait, là, c'est l'illustration, en fait, vraiment de notre victoire, de notre foi. C'est-à-dire que Marie, Marthe est passée d'un état de femme qui est croyante et qui sait, mais elle savait, et là, elle croit. Et c'est quelque chose de différent. Elle est face à Christ. C'est la même chose en apparence. Mais en même temps, ça change tout. C'est-à-dire qu'elle fait une confession de foi extraordinaire. Elle dit oui, ben oui, Seigneur, je crois en la vie éternelle, je crois en la résurrection des morts, je crois que toi, Jésus, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu annoncé par les prophéties. Et vraiment, c'est ce que je vous disais en lisant ce passage, vous voyez tout le parallèle du travail que Dieu accomplit dans notre vie. C'est on vient dans ce monde, on est qui on est, on a notre tempérament naturel, nos qualités, on devient croyante, on est de nouveau, on met notre confiance en Jésus, on ne sait pas grand-chose peut-être, et ensuite c'est Dieu qui commence en nous un travail et une transformation. Et Christ qui nous amène de la connaissance, de l'information, de la théologie, je pourrais dire, à une vie, une expérience. Et ce, dans une situation douloureuse, dans une situation difficile, dans une situation, en fait, simplement, ces situations qu'on peut ne pas aimer en tant qu'être humain, c'est les situations là. Il ne s'agissait pas d'être à la cuisine, de s'agiter, de régner sur la cuisine et les ustensiles. Ça, je peux le faire humainement. Là, Marthe, elle est dans une situation où elle ne peut rien faire. Elle ne peut pas aller rechercher son frère. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Elle a été envoyer les messages, etc. Mais ensuite, tout le reste ne lui appartient pas. Et là, alors qu'elle est déjà avec Jésus, alors qu'elle a confiance en lui, elle fait. C'est drôle de voir cette conversation que Jésus a avec elle, où il lui dit, mais est-ce que tu crois? Je m'imagine, moi, être devant Jésus en tant que croyante. Je suis devant lui, je le vois, mes yeux le voient, etc. Et imaginez-vous que Jésus me dise, mais est-ce que tu me crois? Ça peut éveiller quelque chose dans mon cœur. Et c'est magnifique ce qu'elle déclare. Fait, oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Donc, vraiment, se dire, peut-être, c'était là la source de ma consolation, de me dire que dans toutes nos épreuves, dans toutes nos attentes, dans toutes nos prières qu'on a adressées à Jésus, dont on n'a pas encore vu l'exaucement, bah, tout ça, c'est bien maîtrisé, c'est bien dans la main souveraine du Seigneur Jésus. Et dans notre relation avec lui, on va arriver, il va faire ce travail en nous pour qu'on passe là, je sais, à je crois et je vais vivre quelque chose avec toi dans ce moment. Et je vais encore faire une parenthèse parce qu'ensuite on voit Marie, mais comme je vous ai dit aujourd'hui, je m'occupe de Marthe et pas de Marie. C'est pas que je veuille la laisser de côté, mais voilà. J'aurais des choses intéressantes à dire, mais j'avais pas envie de noter les différences entre elles deux. Et là, on se retrouve, on va revenir au verset 39 de Jean 11, où ça, c'est le moment où ils se rendent devant la tombe. Donc là, encore une fois, je m'imaginais hier soir en disant, mais imagine, tu vas au cimetière, quoi. Tu vas au cimetière devant la tombe de quelqu'un, ça fait 3 jours, 4 jours qu'il y est. T'es avec Jésus et il te demande de faire un truc. Jésus dit au verset 39, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Et là encore, c'est intéressant parce que c'est encore une manifestation de foi de la part de Marthe et Marie. Parce que à l'époque, déjà, bah, c'est encore le cas hein, dans les pays comme ça où il fait extrêmement chaud. Je sais que c'est vrai en terre musulmane également. On enterre les gens dans les 24 heures, dans les 24 heures de leur mort. On n'attend pas, enfin, il y a peut-être une veillée, mais on n'attend pas parce que avec la chaleur, etc., la décomposition, et aussi parce que dans la loi juive, on est frappé d'impureté. On ne peut pas toucher un mort. On ne peut pas. Donc, les personnes qui préparent le mort sont déclarées impures, etc. Il y a toute une signification qui est très forte pour les juifs. Et donc, on met le mort le plus tôt possible dans le sépulcre. Et là, le fait que, à la demande de Jésus, qui fait quand même quelque chose de pas du tout orthodoxe, ben, en fait, elles obéissent. Encore une fois, moi, je vois ça comme un acte de foi quand il dit, ben, enlève la pierre. Alors, Marthe lui rappelle en disant, 4 jours, hein, il sent mauvais. Enfin, il est en décomposition, ça va pas le faire, etc. Mais elles obéissent, ils font enlever la pierre. Et en fait, c'est pareil, c'est fou de voir cela, de voir jusqu'où le Seigneur nous demande d'aller quelque part dans l'obéissance face à quelque chose qui nous est tellement, tellement, tellement impossible. Tellement impossible. Et ensuite, bien, on arrive au miracle, et généralement on lit ça très vite, mais Jésus lève les yeux et dit au Père, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Et donc là, c'est le miracle, c'est que Jésus ressuscite un mort qui était déjà en état de totale décomposition. Donc ça devait être particulier. Personnellement, c'est un petit aparté. Je disais aujourd'hui à Élise, je pense que s'il y avait des écrits de personnes qui ont vécu du temps de Jésus, outre les apôtres et tout, moi, ça m'intéresserait vraiment d'avoir le témoignage de Lazare, parce que c'est particulier quand même, je pense, de mourir, d'être 4 jours dans le tombeau et d'être rappelé à la vie ici-bas par le Seigneur. Et même c'est fou de se dire que le mort sort alors qu'il est complètement, c'est une momie en fait. Il est complètement lié, il a le visage enveloppé d'un linge, et puis à tel point que Jésus dit non mais là il faut le détacher, il faut le laisser aller, etc. Et encore une fois, c'est vraiment le miracle de la souveraineté, de la toute-puissance, de l'action de Dieu, et de se dire que c'est fou aussi de dire que Dieu, le Seigneur, il s'inscrit dans le quotidien de notre vie. Et vraiment tout ce qu'il fait dans notre vie, tout ce qu'il permet dans notre vie, il le permet pour nous, oui, bien sûr, mais aussi pour le témoignage autour de nous. Et c'est glorieux. Jésus dit que c'est glorieux, c'est à la gloire de Dieu, alors que nous, on pourrait tellement avoir cette vision que bah, c'est juste la mort, c'est juste la faim. C'est juste les pleurs, c'est juste la tristesse. Et tout ça, c'est vrai, hein? Mais non, il y a quelque chose de glorieux. Et ça me. Bah pour le coup, ça me réconforte et ça me console. Notamment dans des choses qui sont pour moi non pas difficiles, qui sont simplement impossibles à vivre. Où tous mes moyens humains sont dépassés, épuisés, inefficaces, insuffisants. Je m'imagine vraiment ces deux sœurs, la somme de chagrin, d'angoisse, de soucis, le deuil, etc. Et tout ça pour aboutir à la gloire. Et vraiment, pour moi, c'est le cheminement par lequel Dieu nous fait passer en tant qu'enfant. En fait, nous sommes ses enfants et quel que soit, que l'on soit une Marthe activiste, que l'on soit une Marie plutôt contemplative, on n'a même pas besoin à la limite de se comparer l'une l'autre et de se dire que moi je préfère être comme elle ou comme celle-ci ou comme celle-là. Et Dieu est là et on sait qu'il nous aime. Et ça, c'est quelque chose à vraiment garder dans notre cœur. En fait, on est comme des Marthe et des Marie et des Lazare au cœur de Jésus. En fait, on est ses enfants, on est sa famille, il nous aime. Et quand il y a des choses qui nous arrivent qui sont vraiment dures, longues, difficiles, souvenons-nous des promesses qu'il nous fait, souvenons-nous de ce qu'il dit de lui, souvenons-nous de ses promesses, en sachant que Dieu ne ment pas, il ne ment jamais, il ne ment jamais. Donc s'il nous fait une promesse, c'est vrai, il nous dit la vérité et il nous fait. Et tout le travail, toute l'œuvre de Christ dans notre vie pour la gloire de Dieu, c'est vraiment de nous faire passer. De ce fameux stade de je sais, je suis au courant, à peut-être de façon intellectuelle, peut-être de façon théologique, à un je crois. Et ce je crois, il est quelque part, il est vrai, en fait. C'est le moment, le je crois, c'est le moment où ce qui est vrai et uniquement dans ma tête devient expérimental. Dans ma vie. Et Dieu est comme ça avec nous. C'est même pas nous qui avons besoin de le produire. Dieu est fidèle pour nous faire traverser des choses dans notre vie, des bonnes choses, des choses neutres, des périodes d'attente, des périodes de souffrance, tout. Tout. Mais juste pour qu'on arrive avec, au final, cette gloire. Et notre on a une espérance ici-bas. On sait que le Seigneur est avec nous. On sait qu'il est pour nous. On sait que même s'il entend nos prières et qu'il tarde, il y a quelque chose derrière. Il y a un plan derrière qui est glorieux, dépasse les souffrances du temps présent, qui va les racheter. Et on va voir sa main, on va connaître la délivrance de Dieu, on va connaître sa consolation, on va connaître sa présence. Et on sent comme des Marthe et des Marie, en fait. À dire je sais, je crois, je crois, je savais, mais je crois. Et en fait, c'était ça, de me dire ça me réconforte, Seigneur, de savoir que c'est toi qui fais cette œuvre-là en moi, de me faire passer à je crois, je sais et je crois. Je crois, je l'expérimente, je le vis vraiment. Et je sais que comme il y a des années en arrière, je n'étais pas croyante. C'est difficile à expliquer. Je ne crois pas. Et on me donne des informations et tout d'un coup, je crois et tout d'un coup, il se passe quelque chose dans mon cœur. J'ai du mal à l'expliquer, mais c'est vrai. Je sais que je l'ai vécu. Je sais que c'est tout d'un coup, j'étais avant sans Dieu et tout d'un coup, Dieu est apparu dans ma vie. C'est devenu une évidence. Et jour après jour, en fait, je marche, je vis ma vie avec mes qualités, avec mes défauts, avec mon manque de foi, avec de la foi parfois, etc., avec de l'obéissance, parfois dans la désobéissance. Mais que tout ça, Dieu le façonne. Et que je vois sa gloire. Je vois sa gloire dans votre vie, la façon dont vous-même vous traversez les choses, les joies, les souffrances. C'est un exemple, en fait. Et ah oui, c'est le dernier point que j'avais noté, mais que j'ai pas mentionné. Ce qui est fou, c'est que cette famille a traversé quelque chose dont on parle encore 2000 ans après. Il y a eu les témoins immédiats, tous les juifs qui étaient là dans la maison pour consoler Marthe et Marie, etc. C'est quand même incroyable. Dieu a fait éclater sa gloire et tous les disciples. En fait, c'est ce qui se passe dans notre vie. C'est pour nous. C'est avec Dieu et pour nous, et c'est aussi pour notre entourage immédiat et un peu plus lointain. Ça rayonne en fait et ça parle. Et simplement, bah, je crois que j'ai fini. Je sais pas si voilà, c'était juste. Je sais pas si ça vous a encouragé, mais moi en tout cas, ça m'a encouragé de me dire de voir ce parallèle entre ce que Jésus a fait là, qui nous est raconté, et j'y ai retrouvé quelque chose de l'œuvre de Dieu dans ma vie, dans notre vie en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu.